Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack avec Laurent Deboeuf.
Comme le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et j'en profite bien sûr pour vous rappeler le Ladies Café, la nouvelle édition du Ladies Café qui a été enregistrée mardi dans nos studios et qui sera diffusée ce soir à 17h. Et pour ouvrir cette nouvelle heure de soundtrack ici, People Have the Power. Qu'est-ce qu'on aurait pu choisir de mieux comme titre finalement pour cette séquence qui va être un focus, on va dire, sur les femmes en tout cas qui ont marqué l'histoire du rock. Alors évidemment, il y en a plusieurs, mais dans le cas de Patti Smith, je pense que c'est quand même parmi les figures emblématiques, même s'il y en a eu déjà avant elle. Et donc c'est la séquence ici que l'on partage avec Dominique Reguet. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Et avec Patti Smith, eh bien on peut dire que c'est une nouvelle forme de prise de parole.
Oui, dans les années 70, le rock devient plus radical. Hein. Effectivement, certaines femmes prennent la parole avec une intensité nouvelle. Patti Smith là, apparaît comme une poétesse rebelle. Avec son album Horses, elle mêle poésie, rock et littérature. Elle transforme la scène en véritable manifeste artistique. Chez elle, la musique, le rock sert de support pour faire passer un message engagé. Alors, bien entendu, des artistes femmes engagées politiquement, ça ne date pas du milieu des années 70. Hein. Joan Baez, pour ne citer qu'elle, est une belle illustration de cette scène militante et engagée politiquement, notamment dans ce combat contre la guerre des États-Unis au Vietnam. Mais on est plutôt là dans un registre folk. D'ailleurs, ce titre « People Have the Power » sur l'album de 88 hein, de Patti Smith, « Dream of Life », avait imaginé pour cette chanson quelque chose qui serait dans l'esprit justement de ces protest songs folk de cette jeunesse des années 60, mais avec un traitement rock. Et puis surtout, ce titre « People Have the Power » n'est pas associé à une cause bien définie. Elle voulait, paraît-il, quelque chose de puissant qui peut être chanté par toute personne qui a la simple volonté de faire bouger les choses et qui parvient avec cette volonté à réunir du monde autour de lui et de son combat, quel qu'il soit. Alors, ce qui est amusant dans cette chanson, c'est que Patti Smith raconte qu'elle est née dans sa cuisine. Elle était en train de peler ses patates.
Oui, j'avais déjà lu ça.
Elle était en train de peler ses patates et elle était, on peut dire, un peu de mauvaise humeur hein, en pensant aux tâches ménagères qui l'attendaient, peler les patates, préparer le dîner, faire la lessive. Et puis son mari Fred est entré dans la cuisine et lui a lancé « Tiens, j'ai un petit truc en tête, une phrase, note ça quelque part, people have the power. » Et au début, elle l'envoyait un petit peu sur les roses, genre « Tu crois que c'est le moment de me parler de chansons ?» Et puis quand même, cette phrase lui est restée en tête, le temps de mariner un peu quelques jours, elle a repensé à ce moment où elle est en train de peler des patates et cette phrase « people have the power » et au fond, cette citation, bien, peut s'appliquer à beaucoup de situations et c'est ainsi qu'est née la chanson.
Et Patti Smith qui est, bah on le sait aujourd'hui bien sûr, une des femmes qui a changé la face du rock.
Oui, elle a changé la face du rock, mais quand on imagine le rock, on imagine surtout des histoires d'hommes, de guitares électriques et de groupes mythiques. Hein. Mais derrière la naissance du rock, il y a aussi des femmes, parfois dans l'ombre, parfois dans la lumière. Et l'une des premières s'appelait Sister Rosetta Tharpe.
Ah, oui.
Dans les années 40-50, cette chanteuse de gospel joue déjà de la guitare électrique avec une énergie incroyable. Il suffit d'écouter « Strange Thing Happening Every Day » datant de 1944 pour se rendre compte à quel point le terreau du rock'n'roll vient de là.
C'était la marraine du rock.
Ben oui, son jeu a directement influencé les pionniers comme Elvis Presley, Chuck Berry. D'ailleurs, Chuck Berry a dit dans une interview en novembre 2020 que toute sa carrière n'avait été qu'une longue imitation de Sir Rosetta Tharpe. Et puis, il y a évidemment Big Mama Thornton qui, en 52, chante et enregistre Hound Dog, hein, chien de chasse, hein, traduction littérale, mais qui en fait est un titre écrit par des hommes, faut-il le rappeler, sur des, on va dire, des dragueurs un petit peu compulsifs. Hein. Hound Dog chanté par cet artiste de blues, hein, dont la version à l'époque, lorsqu'elle sort en 52, va plutôt bien se classer, mais on est très très loin évidemment de la version historique d'Elvis Presley. Hein. Hound Dog, à l'époque, n'a pas touché, dans la version en tout cas de Big Mama, n'a pas touché toutes les communautés de l'Amérique. Hein. Ce ne sera qu'avec Elvis qu'on peut parler déjà d'un vrai énorme succès rock'n'roll. Et puis, Big Mama Thornton n'était pas ce qu'on pourrait appeler une rockstar.
Non, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Et aussi bien elle que Sister Rosetta Tharpe, il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle soit véritablement reconnue. Alors, dans les années 60, la société a changé, oui. La jeunesse contestait bien sûr, et puis les femmes commençaient à s'imposer dans le rock.
Oui, et également, et surtout je dirais, surtout sur la scène, enfin du côté-là en tout cas, de la scène soul, avec Tina Turner, encore sous l'emprise de son salopard de Mary Ike, et puis Aretha Franklin, hein, et son manifeste Respect en 67, hein, qui est un, faut-il le rappeler, un détournement du sens original de la chanson de Otis Redding.
Oui.
Au départ, c'est quand même l'histoire d'un gars qui râle sur sa femme, hein, qui lui manque de respect après sa très longue journée de travail. Il râle comme ça, il rentre, et puis, eh ben, en fait, Aretha Franklin va détourner le sens pour donner ce manifeste très féministe. Mais en rock, parallèlement à la scène folk, hein, on l'a dit avec Joan Baez, avec Joni Mitchell, avec Carole King aussi, les femmes, à cette époque, époque-là, enfin, dans ces années 60, sont souvent associées au rock, mais elles sont intégrées dans des groupes, sauf peut-être en Grande-Bretagne avec Marianne Faithfull, mais aux États-Unis, bon, on pense aux Mamas and Papas ou Jefferson Airplane avec Grace Slick, mais celle qui va vraiment dynamiter tout ça, eh bien, c'est évidemment Janis Joplin.
Classique 21, 9h midi, Soundtrack.
Janis Joplin à l'instant avec Cosmic Blues et donc toujours évidemment ici, je rappelle, hein, c'est la journée mondiale des droits des femmes. Je pense que ça devrait être tous les jours, mais enfin bon, ça n'engage que moi. Et je vous rappelle encore hein, donc la diffusion du Ladies Café tout à l'heure, ce sera à 17h. Alors Janis Joplin, bah, c'est une première icône féminine, j'ai envie de dire oui, mais est-ce que c'est oui ?
Très probablement, hein. Même si moi je mettrais quand même une petite réserve, hein, car c'est une artiste rock évidemment, ouais, c'est une star du rock, c'est une, voilà, on la voit comme première icône du rock, c'est elle qui a été mise en avant et pas un groupe, et puis surtout elle adopte à ce moment-là ce qu'à l'époque on définit comme l'attitude de la culture rock, une attitude un peu bad guy.
Oui.
Elle se comporte comme un rocker. Et oui, elle boit, elle s'habille confortable, loin de l'esthétique de la poupée Barbie. Pas vraiment le look de la jeune fille sage, jeune et jolie. Hein. Sur scène, elle casse tous les codes. Pas de glamour, pas de compromis, juste une intensité blues déchirante. Janis Joplin prouve qu'une femme peut incarner la même rage rock que n'importe quel chanteur masculin. En tout cas, elle va ouvrir la voie et on prouvait aussi que les femmes peuvent être aussi des rockeuses. Et avec l'industrie musicale, elle va permettre ainsi l'explosion de quelques formations et puis laisser le champ libre à des groupes comme Suzy Quatro, Blondie, The Runaways, The Pretenders et bien d'autres. Et puis, je dirais dans le même temps, dans ces années 70, il y a une autre révolution qui se joue peut-être plus dans l'écriture des chansons. Les femmes peuvent désormais écrire leur propre histoire dans la musique populaire, dans un registre différent. On a évidemment Stevie Nicks hein, avec Fleetwood Mac,
qui
va quand même s'imposer dans la culture rock. Son style, son écriture et son charisme hein, vont inspirer d'autres générations d'artistes. Et pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, il y a une artiste qui a une vision, elle, totalement unique de cette culture pop-rock. Hein, on peut mixer les deux. C'est évidemment Kate Bush, jeune artiste parrainée, faut-il le rappeler, on aura l'occasion d'y revenir peut-être tout à l'heure, par David Gilmour, hein, qui lui offre cette liberté de choix artistique.
Tout à fait.
Elle compose, elle produit, elle met en scène ses clips, une indépendance artistique rare pour une femme dans l'industrie musicale de l'époque. Et puis Kate Bush évoque justement souvent le rapport homme-femme. L'un de ses plus grands succès, Running Up That Hill, c'est une prière, une invocation à Dieu pour qu'il change sur une courte période les rôles entre l'âme des hommes et puis celle des femmes, et inversement, façon poétique peut-être de mieux se comprendre et de maîtriser enfin ce concept qui est discutable, hein, que la femme vient de Vénus et que l'homme vient de Mars.
La voici Kate Bush avec Running Up That Hill.
Yeah.
Running Up That Hill à l'instant, Kate Bush, et donc produit aussi par David Gilmour, puisque c'est aussi le sujet
du jour. Une cassette audio. Hein.
Oui, voilà. Et donc, cette chanson qui en plus a connu un renouveau avec la série Stranger Things.
Ouais, voilà. Énorme succès. Bon, c'est vrai que on a redécouvert, une nouvelle génération a redécouvert Kate Bush, mais elle a quand même de nombreuses héritières qui ont su garder justement cette indépendance artistique dont on parlait, avec cette touche très féminin. Surtout ne pas imiter une certaine scène rock très masculine, mais créer quelque chose d'unique, de différent, ce qui a permis dans les années 90 d'avoir une nouvelle génération qui arrive avec un discours un peu plus direct. Hein. On pense à PJ Harvey qui incarne cette intensité brute, ses chansons parlent de désir, de violence, d'identité sans filtre. Hein, là. Et puis au même moment, on a aussi Tori Amos hein, qui transforme le piano en instrument de confession et de combat. Et puis d'un autre côté, on a aussi cette scène underground américaine de cette époque hein, avec le mouvement Riot Girl, avec des groupes comme Bikini Kill, L7, qui revendiquent ouvertement un rock très féminin.
Ouais. Et quelqu'un qu'on a peut-être oublié de citer aussi dans les années 70, c'est Joan Jett. Et puis sa comparse aussi qu'elle avait dans les Runaways, la guitariste, le nom m'échappe maintenant.
On a évoqué les Runaways.
Ouais, voilà.
Mais son plus grand succès, Joan Jett, c'est quand même une reprise d'un groupe masculin.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Mais quand elle est arrivée, c'était quand même pour imposer son style et Bad Reputation était quand même très significatif. En tout cas, voilà. Alors aujourd'hui, l'héritage de ces pionnières est immense. Hein.
Oui, des artistes comme Florence Welch, St. Vincent, ou même dans un style un peu différent, Billie Eilish, hein, par exemple, toute jeune artiste, écrivent, produisent et contrôlent leur carrière avec une liberté nouvelle. Ces femmes sont désormais partout, je dirais, dans l'industrie musicale, hein, sur scène, en studio, derrière les consoles, ou même à la tête des labels. Alors, si le rock a toujours été une musique de liberté, c'est aussi grâce à ces femmes qui ont osé quelque part prendre le micro, écrire leurs propres chansons et défier les conventions, héritières de ces traditions rock qui incluent, justement, dans leur musique des éléments empruntés, je dirais, à différents courants de l'histoire du rock, eh bien, il y a The Last Dinner Party, un groupe 100% féminin qui, en moins de 5 ans, ont su imposer leur style. De haut vol, je les ai vus plusieurs fois en concert et je peux vous dire que ça joue vraiment. Il y a des harmonies vocales incroyables. Elles sont virtuoses, chacune dans leur instrument, que ce soit à la guitare. Et puis surtout, elles ont une connaissance, je dirais, encyclopédique de l'histoire du rock. Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, si les Rolling Stones, dès leur début, les ont accueillis pour assurer la première partie de leur concert. The Last Dinner Party, avec souvent dans leur répertoire des textes engagés dans la défense justement des droits des femmes.
Girl Power aujourd'hui, mesdames. Et donc, merci beaucoup Dominique. On va refermer donc ici avec The Last Dinner Party et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The Feminine Urge et Last Dinner Party qui vient donc clore cette spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.